Les podcasts de Radio Vatican.
La crise diplomatique entre les pays du Golfe se poursuit après la décision le 5 juin de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou encore de l'Égypte de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme. Cette crise s'est depuis internationalisée. Le chef de la diplomatie qatari a effectué une tournée en Europe pour chercher des soutiens. Ce mercredi 14 juin, c'est le ministre turc des Affaires étrangères qui est attendu à Doha. Le Qatar, petit émirat richissime et premier producteur de gaz, ne veut pas se laisser isoler. Ce n'est pas la première fois que Riyad et Doha se brouillent, mais l'ampleur de cette crise est cette fois inédite. Comment l'expliquer? Nous avons posé la question à Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient au journal Le Figaro à Paris et auteur de Nos très chers émirs, paru chez Michel Lafon.
Une semaine après le déclenchement de cette crise, le Qatar ne donne pas des signes de vouloir lâcher quoi que ce soit. Le ministre des Affaires étrangères ne cesse de répéter que la politique étrangère du Qatar ne peut pas lui être dictée par une puissance étrangère, que la chaîne Al Jazeera, sur laquelle beaucoup de reproches pleuvent, eh bien, son indépendance, sa ligne éditoriale restera fixée par Doha. Donc on n'a pas l'impression que le Qatar cède de quoi que ce soit. Pour une raison, je pense, qui tient au fait que le Qatar pense qu'il n'est pas isolé. C'est vrai que vous avez vu l'Iran, vous avez vu la Turquie, des pays même comme le Maroc ont envoyé l'aide alimentaire. Et puis, au sein des monarchies du Golfe, le Koweït et Oman n'ont pas voulu s'associer aux décisions prises par l'Arabie Saoudite et par les Émirats. Donc, je pense que le Qatar sera obligé de céder un peu, parce que la crise est sévère, notamment pour son économie et pour ses approvisionnements. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne donne pas l'impression de céder. Et c'est plutôt, je dirais, les Saoudiens et les Émiriens qui se retrouvent dans une posture un petit peu délicate, parce que la crise est effectivement internationalisée. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a fait une tournée en Europe. Et on voit bien que les deux camps sont encore en train de s'observer. Et qu'en tout cas, le Qatar reste ferme sur ses positions.
L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar font partie du Conseil de coopération du Golfe depuis des années. Il y a eu quelques tensions de temps en temps. Il me semble qu'en 2014, l'ambassadeur saoudien avait été rappelé. Puis ensuite, les choses s'étaient remises. Aujourd'hui, on est quand même dans une crise beaucoup plus grave. Pourquoi elle arrive maintenant, cette crise? Est-ce que c'est lié à la visite de Trump, notamment à Riyad, il y a quelques semaines?
Cette crise n'est pas la première entre ces monarchies du Golfe. Vous avez fait allusion à 2014, il y avait eu une crise déjà sévère. Les ambassadeurs saoudiens, émiratis et d'autres avaient quitté Doha. Ensuite, un certain nombre d'exigences avaient été transmises à Cheikh Tamim, l'émir du Qatar, qui, en gros, avait expulsé 7 dirigeants des Frères musulmans du Qatar qui s'étaient retrouvés en Turquie. La chaîne de télévision Al Jazeera avait accepté d'être moins critique à l'égard de l'Arabie Saoudite, mais elle est restée critique à l'égard de l'Égypte. Et donc, les Saoudiens, les Émiriens ont le sentiment aujourd'hui que Cheikh Tamim n'a pas tiré les leçons de la crise de 2014. Et surtout, la grande différence aujourd'hui, c'est que Saoudiens et Émiriens sont soutenus dans leur bras de fer face au Qatar par Donald Trump, qui est venu à Riyad il y a 3 semaines avec 2 idées en tête, combattre l'islam politique et combattre l'Iran. Or, sur ces deux chevaux de bataille, eh bien, l'islam politique, c'est la bête noire des Émirats Arabes Unis et l'Iran, c'est la bête noire de l'Arabie Saoudite. Cela étant, il y a des reproches qui sont adressés, qui sont vrais, sur le soutien à des financiers privés du terrorisme. Nous donnons plusieurs noms de personnes qui sont abritées par le Qatar et qui sont réclamés par les États-Unis et qui, eux, ont financé Al-Qaïda en Irak, les Chebab en Somalie ou Al-Qaïda en Syrie. Donc il y a à la fois une part d'instrumentalisation, mais aussi une part de vrai.
Vous avez évoqué l'islam politique tout à l'heure. On sait que le Qatar a appuyé les Frères musulmans, notamment en Égypte. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs une rupture avec l'Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui, Doha paye le prix de ce soutien politique ?
Au-delà du soutien qui est avéré du Qatar aux Frères musulmans, Doha paie le prix de 10, 12, 15 ans d'agacement. Le Qatar a beaucoup agacé l'Arabie Saoudite et les Émirats par son hyperactivisme diplomatique, par son côté show-off, rachat du PSG, organisation de la Coupe du Monde. Le Qatar aime faire, mais aime faire savoir. Or ça, ce sont justement des méthodes qui n'étaient pas dans la tradition bédouine, où on ne fait pas parler de soi. Et donc le Qatar a beaucoup agacé aussi par son double jeu, il faut le dire, à l'égard des islamistes, notamment en Libye, où le Qatar a soutenu des faction islamiste radicale, en Syrie également. Donc, si vous voulez, à un moment donné, eh bien, tout ça se paye, et une fois encore, ça se paye parce que vous avez aux États-Unis Donald Trump qui est prêt à soutenir ces jeunes dirigeants saoudiens émiriens qui veulent faire rentrer le Qatar dans le rang, à la fois en faisant cesser son soutien à l'islam politique aux frères musulmans, et surtout, parce que je crois que c'est la vraie raison, en tout cas pour les Saoudiens, faire en sorte que le Qatar soit plus dur à l'égard de l'Iran, parce que le Qatar, d'ailleurs comme le Koweït et comme le Sultanat d'Oman, n'est pas dans cette obsession iranienne comme le sont les Émirats et l'Arabie Saoudite. Le Qatar n'a jamais eu une lecture des événements de ce qui se passait au Moyen-Orient, une lecture chiite-sunnite, voyant toujours la main de l'Iran derrière des troubles, etc., parce que, par réalisme, je dirais, diplomatique, et aussi parce que le Qatar partage un immense champ gazier avec l'Iran, et donc a toujours eu l'habitude de discuter avec Téhéran.
Venant de l'Arabie Saoudite, est-ce que cette rupture n'est pas un peu un piège qui risque de se refermer contre elle ?
Effectivement, je crois que l'Arabie Saoudite peut être prise à son propre piège, mais c'est une fois encore, je pense que derrière cette crise, il y a ces jeunes dirigeants, Mohamed bin Salman, saoudien, 32 ans, très impulsif, celui qui a lancé la guerre au Yémen, dont on sait le peu de résultats qu'elle a connu, et puis il y a Mohamed bin Zayed, et donc des Émirats. Il faut peut-être espérer que justement le roi Salman reprenne un petit peu les choses en main et qu'on en revienne à un dénouement peut-être plus traditionnel dans les pays du Golfe à l'égard du Qatar, parce que effectivement au jour d'aujourd'hui, eh bien, le Qatar n'est pas rentré dans le rang, et on voit bien que diplomatiquement il n'est pas isolé, et que par conséquent c'est pour l'instant une semi-défaite des Saoudiens et des Émiriens.
Est-ce que malgré la fougue de ces nouveaux dirigeants, ces pays-là vont pouvoir se remettre à parler comme des bédouins?
C'est la question, oui. Ils sont obligés de se parler parce qu'ils sont à la fois frères et cousins. La famille dirigeante de Qatar, les Beni Tamim, eh bien, viennent du tribu du Najd en Arabie Saoudite. Il y a deux siècles, ce sont des Wahhabites. Mais bon, ce sont des cousins qui ne s'aiment pas, mais ils sont obligés de se parler. Puis il y a quand même la géopolitique qui est là, des rapports de force. Le Qatar est un tout petit pays, donc il ne peut pas tenir tête très longtemps, mais il ne peut pas non plus aller à Canossa, et il a des appuis. Et donc tout ça se terminera effectivement probablement par des compromis. Les Émirats Arabes Unis, dont on ne dit pas assez qu'ils sont probablement les instigateurs de cette crise, vont peut-être un peu loin, ont peut-être présumé de leur force. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, le Qatar, une fois encore, n'abdique pas, et que le rapport de force n'est pas forcément en faveur de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc effectivement, je pense qu'il y aura un règlement de la crise. Il risque d'être long parce que la crise est sérieuse et profonde. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas l'issue parce qu'on est toujours dans cette confrontation, chaque camp s'observant. Il n'y a probablement pas de risque d'intervention militaire. Mais en tout cas, il y a un durcissement des positions de part et d'autre qui n'augure pas d'une issue diplomatique à court terme.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.